Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe, une émission proposée par France 24 et Radio France Internationale. Nous sommes au Parlement européen à Bruxelles où les chefs de groupe et de parti ont déjà fait leur rentrée parlementaire. Ils discutent en tout cas, et c'est le cas de notre invité tête de liste des travaillistes britanniques, Richard Corbett, bonjour.
Bonjour.
Vous devenez européen dès votre adolescence, quand vous partez vivre à Genève. Ensuite, vous êtes étudiant à Oxford, où vous vous engagez dans le mouvement européen. Et déjà, vous militez pour le maintien dans l'Union européenne pour le référendum de 1975. En 2016, vous êtes toujours un fervent partisan du Remain, alors que le patron du Labour peine à convaincre sur son engagement en faveur du maintien. Vous êtes élu pour la première fois au Parlement européen en 1996, et cette année, pour l'édition 2019, vous êtes le chef des travaillistes. Votre parti, en perte de vitesse, sauve 10 sièges avec 14% des suffrages.
Richard Corbett, bonjour. Alors, ça vous fait quoi d'être élu dans ce Parlement européen, sachant que vous êtes destiné à le quitter dans quelques mois ?
Dans 5 mois, éventuellement, parce que la question du Brexit n'est pas encore résolue. Pas du tout. Alors, c'est possible qu'on va rester quand même 5 ans.
Et vous le souhaitez d'ailleurs ?
Oui, bien sûr. Le Brexit, c'est une catastrophe. C'est pas bien pour l'Europe, c'est une catastrophe pour les Britanniques.
Alors, votre formation a beaucoup perdu lors de ce scrutin. Mm-hmm. Vous avez perdu 10% par rapport au précédent. Est-ce que le Labour paye les ambiguïtés de son patron, Jeremy Corbyn ?
Nous payons l'ambiguïté qui existait dans notre position. On a bel et bien dit qu'on s'oppose à un Brexit mauvais, ce qui est devant nous, ou un Brexit sans accord. Et dans ces circonstances-là, il faut faire un nouveau référendum. Mais on ne l'a pas dit très clairement. Les Verts et les libéraux-démocrates ont été beaucoup plus clairs, simples, et c'est eux qui nous ont piqué des voix. On a perdu des voix vers des partis, des autres partis pro-européens, pas vers les partis anti-européens.
Ils ont été clairs en disant qu'ils ne voulaient pas de Brexit du tout, c'est-à-dire qu'ils voulaient rester coûte que coûte et par tous les moyens dans l'Union.
Exactement. Et nous, on n'était pas suffisamment clairs sur ça.
Mais vous avez aussi Jeremy Corbyn, ancien eurosceptique, à la tête de votre parti.
Oui, un ancien eurosceptique, mais qui a quand même fait campagne pour rester dans le référendum il y a 3 ans.
Il faut changer la direction du Labour ?
La direction de notre politique est en train de changer déjà. Nous avons déjà, Jeremy Corbyn lui-même a clarifié que nous sommes très clairement maintenant en faveur d'un référendum sur n'importe quelle issue de cette question du Brexit. Pour d'ailleurs pouvoir empêcher le Brexit, ça c'est clair.
Alors Theresa May, elle a été contrainte à la démission faute d'avoir réussi à faire voter l'accord de sortie qu'elle avait négocié longuement avec Bruxelles. Elle emporte l'entière responsabilité ou d'autres aussi sont responsables et lesquels ?
C'est surtout elle, mais aussi son parti, le Parti conservateur au gouvernement. Ça fait quand même des années qu'ils ont une guerre civile sur la question européenne. Ils se déchirent entre eux de façon spectaculaire. Et c'est en grande partie pour ça que Theresa May était incapable de trouver une issue.
Alors,
d'ailleurs, on peut, si je peux
allez-y.
Dire quelque chose de plus sur ça. Si on veut sortir de l'Union européenne, il faut quand même faire des choix assez difficiles. Soit on quitte complètement, pas seulement l'Union, mais le marché européen, l'Union douanière. À ce moment-là, du point de vue économique, c'est assez catastrophique. Ou bien, pour atténuer les problèmes économiques, on fait comme un peu la Norvège, on reste dans le marché intérieur et on reste aussi dans l'Union douanière. Mais à ce moment-là, il faut suivre tous les règlements adoptés par l'Union européenne sans plus avoir son mot à dire si on n'est plus un État membre. Donc il faut suivre et pas décider. Donc ni l'un ni l'autre est une bonne solution pour le Royaume-Uni.
Et aujourd'hui, le favori pour succéder à Theresa May, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, qui lui opte pour une position beaucoup plus dure. Alors cette semaine, il a fait sensation en déclarant que ce n'était pas sûr que le Royaume-Uni paye la facture du Brexit. est-ce que c'est la bonne personne pour diriger les négociations et où mène-t-il votre pays?
Non. Bah, d'abord, il est très connu pour dire de toutes sortes de choses fracassantes qui, bon, et la semaine après, il change d'avis. Mais il est quand même, vous avez raison, connu pour être un Brexiteur dur et pur. Or, si lui, il devient le leader du Parti conservateur, est-ce que les conservateurs vont pouvoir garder leur majorité à la Chambre des communes? Parce qu'il y a quand même des conservateurs relativement modérés, sur la question européenne notamment, qui ont déjà dit qu'ils ne vont pas soutenir Boris Johnson. Donc, dans ce scénario-là, c'est possible qu'on va vers des élections anticipées au mois d'octobre. Ce n'est pas certain, rien n'est certain. Donc, le chaos et la confusion de la politique britannique maintenant, mais c'est possible.
Une très large majorité des 10 candidats à la succession de Theresa May sont tout de même favorables à un Brexit le plus dur possible. Est-ce que vous voulez et surtout vous pouvez empêcher cette issue d'un Brexit sans accord?
La Chambre des communes s'est déjà prononcée contre une sortie de l'Union européenne sans accord. Donc,
mais pas de façon légalement contraignante.
Oui, donc, ben, ils ont manifesté très clairement la volonté du Parlement. Donc on va avoir un conflit entre le Parlement et l'exécutif, le gouvernement. En principe, le Royaume-Uni est une démocratie parlementaire. La Chambre des communes est célèbre pour être le noyau de cette démocratie. C'est quand même inconcevable qu'un gouvernement veuille poursuivre dans une voie qui a été rejetée par le Parlement.
Alors, dans une négociation, il faut être deux. Là, en l'occurrence, c'est avec Bruxelles que votre pays doit négocier. La date butoir, c'est le 31 octobre. Hein, et les Européens le disent clairement, ils ne veulent pas rouvrir de négociations sur l'accord principal. Mmh. Alors, est-ce que vous les croyez sur parole ou est-ce que c'est encore un bluff?
Donc, de leur point de vue, pourquoi dire oui, on veut tout rouvrir, bien sûr. Bien sûr qu'ils vont dire non. Mais je pense qu'ils sont plus dur sur l'accord de divorce en tant que tel, mais plus flexible sur la déclaration politique, sur la relation future avec l'Union européenne. Là, ils ont déjà dit, on est ouvert. Mais de toute façon, est-ce que le Royaume-Uni lui-même sera prêt à avoir une position pour une future négociation avant le 31 octobre? Probablement pas. Donc, on va probablement, possiblement, vers une nouvelle demande d'étendre le délai.
Et vous pensez que les Européens vont l'accepter?
Je pense que oui. Bien sûr, ils vont dire à ce moment-là, ils vont dire non, pas du tout, vous avez déjà eu deux extensions, il faut prendre des décisions chez vous. Mais quand on arrive à cette date butoir, quand même, l'extension la plus difficile, c'était la dernière, parce que c'était très inconvénient pour l'Union européenne. Parce qu'à cause des élections européennes, il fallait revenir sur la redistribution des sièges au Parlement européen et tout réorganiser. Ça, c'était un problème. Mais une extension au-delà du 31 octobre, ça, c'est beaucoup moins problématique. C'est une simple extension du statu quo.
Alors, malgré les risques que le Brexit fait courir sur l'économie, nous partons en direction de votre pays, voir ce qu'il se passe dans la ville de Sunderland. Elle était acquise traditionnellement à la gauche, mais elle a voté pour partir et a confirmé ce choix aux élections européennes. On regarde tout de suite ce reportage signé Chris Moore et Mounia Kassem.
Dans le nord-est de l'Angleterre, la ville de Sunderland. Ici, un enfant sur trois vit dans la pauvreté. En 2016, les habitants ont fait le choix du Brexit à 61%. Autrefois réputée pour son industrie navale, la ville dépend désormais de son secteur automobile et en particulier de l'usine Nissan qui emploie directement 7000 personnes. Michael est chauffeur de taxi. Pour lui, l'entreprise est essentielle à la communauté.
Il n'y avait pas beaucoup de travail à Sunderland. Et Nissan a créé énormément d'emplois.
Mais le Brexit pourrait bien changer la donne. Nissan, qui craint l'instauration de barrières douanières, a annoncé vouloir produire son nouveau SUV non pas à Sunderland, mais au Japon.
Si Nissan quitte la ville, ce sera une tragédie, parce que toute l'économie de Sunderland s'effondre.
Jed Parker a contribué à l'implantation de l'usine Nissan à Sunderland. Ce qui a séduit l'entreprise japonaise à l'époque, c'est l'accès au marché européen.
Cela fait environ 30 ans que nous sommes spécialisés dans la fabrication de moteurs et je ne vois pas qui sera en mesure d'embaucher un aussi grand nombre de personnes. Cela va se traduire par moins d'emplois et donc du chômage, des problèmes sociaux, etc.
Dans ce pub du centre-ville, la plupart des clients souhaitent que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne le plus vite possible.
Notre argent doit aller à notre système de santé.
Mais Boris Johnson n'a-t-il pas menti à ce sujet ?
Oui, c'est vrai, mais j'ai quand même voté pour le Brexit. Et je reste sur ma position.
L'immigration était une question centrale pour vous ?
Ah ouais, complètement.
Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés à Sunderland ?
Oui, beaucoup.
Les immigrés ne représentent pourtant que 4% de la population de Sunderland. Mais le nombre de résidents nés à l'étranger a doublé au cours des 10 dernières années.
Alors Richard Corbett, vous voyez ce reportage, un choc économique redouté, y compris dans l'Angleterre la plus pauvre. Mais est-ce qu'il est bien réel ou il est beaucoup exagéré à des fins politiciennes en cas de sortie sans accord ?
Non, elle n'est pas exagérée. Ça, on voit déjà maintenant la réalité économique de, comme l'usine automobile de Sunderland qui change la production vers le Japon. On redoute que ça soit encore pire. Ça, on verra. C'est des prédictions, mais on peut déjà voir sur le terrain des décisions qui sont déjà en train d'être prises.
Alors, le grand gagnant de ce scrutin européen au niveau du Royaume-Uni, c'est bien sûr le parti du Brexit, hein, de Nigel Farage.
Vous trouvez ? Il a gagné le plus grand nombre de sièges, mais la totalité des partis qui soutiennent le Brexit, les trois partis favorables au Brexit, ensemble, ils ont baissé de plus de 50% la dernière fois à 41%, je pense, cette fois. Ils ont perdu des sièges. C'est les partis plus pro-européens dans leur ensemble qui ont gagné des sièges. Et le parti de Nigel Farage, n'oubliez pas que lui, il pensait prendre tous les voix qu'il, la dernière fois, était pour UKIP, 27% déjà, et la moitié des voix du Parti conservateur et quelques voix du Parti travailliste. Il devait arriver à 45% avec ça. Il n'a eu que 31%. C'est un échec.
Alors, au regard de ce qui s'est passé dans la législature précédente avec les élus UKIP, est-ce que vous redoutez aujourd'hui son pouvoir de nuisance au sein du Parlement européen ?
Ouf. La plupart d'entre eux, de UKIP la dernière fois, ils étaient notés pour leur absentéisme. Et même quand ils étaient là, ils étaient au bar, plutôt que de faire obstruction. Le règlement du Parlement, elle permet de quand même outrepasser à des députés qui sont là pour saboter. En principe, c'est très facile de saboter le Parlement européen à cause de besoins d'interprétation, par exemple. Hein. Il suffit d'avoir un bruit sur son micro pour que tout le système ne fonctionne plus. Mais en pratique, cela ne s'est jamais fait. Et si vraiment il tente le sabotage, c'est quand même assez antidémocratique. Ça va rebondir contre eux.
Alors, il y a un épisode qui a marqué les esprits quand même. Donald Trump qui était en visite officielle au Royaume-Uni en promettant un accord commercial avantageux aux Britanniques après le Brexit, qu'il appelait d'ailleurs de ses voeux. Pour vous, c'est préparer l'avenir ou c'est de l'ingérence ?
Ah ben, Trump est connu pour son l'ingérence de toutes sortes dans les affaires politiques de différents pays. Mais sur l'accord de commerce, n'oubliez pas que la plupart du commerce britannique, c'est avec nos voisins européens. Les États-Unis, c'est beaucoup moins important. Donc, augmenter ça éventuellement, ça peut aider, mais à quel prix ? Parce que ce que demandent les Américains, c'est par exemple de pouvoir vendre certains produits agricoles qui ne sont pas au niveau sanitaire européen, que nous avons décidé en commun en Europe. C'est aussi pour viser les soins de santé. Nous avons un système national social de santé chez nous, financé par la fiscalité, et gratuit pour tout le monde. On ne veut pas commercialiser la santé chez nous.
Alors, Richard Corbett, on aimerait avoir votre avis sur les affaires qui préoccupent en ce moment les 28. C'est bien sûr la grande négociation pour les présidences des grandes institutions, la Commission, le Parlement, la BCE, le Conseil. Mm-hmm. Est-ce que votre gouvernement va respecter son engagement de loyauté ou est-ce qu'il va essayer de peser dans ce grand marchandage ?
Déjà la dernière fois, M. Cameron n'était pas d'accord quand M. Juncker a été choisi comme président de la Commission, mais bon, on a voté, il était en minorité, donc c'est une décision sur le président de la Commission qui est prise par majorité qualifiée et une vote majoritaire au Parlement européen pour élire le candidat proposé. Donc, ils ne peuvent pas vraiment le bloquer.
Michel Barnier, négociateur du Brexit, vous en avez entendu parler sûrement. Mm-hmm. Il ferait partie d'ailleurs des candidats officieux à la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Mm-hmm. C'est un bon candidat ?
Semble-t-il. C'est un homme très compétent, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, on a eu des élections dans lesquelles chaque parti a annoncé en avance quel était son candidat préféré pour être président de la Commission. On doit quand même, du point de vue démocratique, commencer en voyant si l'un ou l'autre peut regrouper une majorité parlementaire au Parlement. Soit M. Weber, le candidat du PPE qui a eu le plus grand nombre de sièges, soit M. Timmermans qui est beaucoup mieux placé pour faire une coalition qui a un plus grand nombre.
Qui est votre champion, hein, puisque vous êtes
oui,
dans son groupe. Hein,
c'est ça, le candidat socialiste, mais il a un soutien assez, très grand.
Deuxième partie, il a ses chances, vous dites, M. Timmermans, d'avoir la tête de la
Commission. Oui, parce que lui, il peut faire des coalitions beaucoup plus faciles, parce que ni l'un ni l'autre a une majorité. Hein. Donc Timmermans est mieux placé pour avoir une coalition rassemblée plus grande que M. Weber.
Dans ce scrutin, on a vu une poussée des Verts également, qui veulent peser, qui veulent participer également.
Oui, et j'imagine qu'ils préfèrent Timmermans à Weber, je suppose.
On imagine. Quelle est, d'après vous, la priorité de cette future commission ? Est-ce que c'est le climat ou est-ce que c'est reconstruire cette Europe après le départ éventuel des Britanniques, ou est-ce que c'est se positionner par rapport aux autres grandes puissances, États-Unis, Chine ?
Ben, ce n'est pas des propositions contradictoires, n'est-ce pas ? On doit s'attaquer
à
tous les problèmes. Mais je pense que ce qui est de plus en plus évident pour notre planète, c'est quand même la menace du changement climatique et on n'a pas de temps à perdre pour s'adresser à ça de façon beaucoup plus rigoureuse. Et ça, c'est un cas typique d'un problème où on le fait mieux ensemble au niveau européen que séparément et de façon éparpillée au niveau national.
Si vous deviez donner un pourcentage ou une note sur 10 pour justement la probabilité qui inquiète aussi les Européens d'une sortie sans accord, d'un no deal, donc vous diriez quoi ? Sur 10, combien de chances finalement ?
Difficile à dire parce que l'instabilité politique au Royaume-Uni est telle qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est quand même dramatique. Un pays qui était connu pour sa stabilité politique, son pragmatisme, cette réputation-là est complètement envolée depuis le référendum il y a 3 ans. Et toutes sortes d'éventualités sont possibles. Mais c'est de plus en plus probable, certainement de plus en plus possible, qu'on peut arrêter le Brexit.
Alors, vous dites ça ?
Ah oui, certainement. Regardez aussi l'opinion publique. Tout le monde s'attendait que l'opinion publique allait se rallier derrière le résultat du référendum. Les gens allaient dire, ouais, mais voilà, on a eu d'autres débats, on a tranché, allons-y. 60% en plus pour le Brexit. Non, au contraire, l'opinion publique se glisse lentement dans l'autre direction. Il y a une majorité maintenant contre le Brexit.
Vous dites, le Brexit n'aura pas lieu, donc Richard Corbett. Attention, vous êtes un des derniers à le dire.
Je dis que la possibilité de l'arrêter est plus grande que jamais.
Richard Corbett, pour terminer, parlons un peu de vous et de votre avenir. Si ce Brexit a vraiment lieu, qu'est-ce que vous faites le jour d'après ? Vous rentrez dans votre région ?
Je vais peut-être acheter un cheval pour aller en direction du coucher du soleil.
Merci à vous, en tout cas, d'avoir été notre invité aujourd'hui, Richard Corbett.
Merci à tous de votre fidélité. Merci à Richard Corbett, bien sûr, notre invité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur RFI ou sur France 24.